Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes. Voici Catherine Beauchamp.
Maman, dis-moi, tu sais ce que je voudrais le plus?
Mademoiselle Dieu.
C'est de devenir une grande chanteuse. I get
wings to fly. C'est vraiment toi qui chantes là-dessus?
Oui.
Ouais. C'est à toi que je parle, Céline.
Aline.
Penses-tu que tu pourrais chanter pour moi?
C'est le film dont tout le monde parle, Aline, basé sur la vie de Céline Dion, inspiré, disons, oui. Comme ça. Et c'est un film qui met en vedette Valérie Lemercier, qui réalise, qui co-scénarise. Oui. Elle est au bout du film. Madame Lemercier, bonjour.
Bonjour, je prends beaucoup de risques pour vous.
Oui.
On est sur le chemin de Gatineau. Et on s'est arrêté sur un parking. Il y a peut-être un camion qui va m'écraser. Bon,
la 417.
C'est pas grave.
Écoutez, comme on dit au Québec, voir Gatineau et mourir.
Voilà. Et ben, je suis très contente de voir Gatineau ce soir. Voilà.
Valérie Lemercier, vous êtes au Québec depuis quelques jours pour présenter le film Aline. La réaction hier à la Place des Arts a été excellente, une ovation de 15 minutes. Est-ce que aujourd'hui, vous sentez quand même un certain soulagement d'avoir pu présenter le film et d'avoir eu cette réaction?
Ben, c'était doux, il y a eu beaucoup de rire, je suis restée dans la salle, je me suis sentie bien. D'abord, dès que je suis avec mes acteurs, enfin, ils sont pas à moi, vos acteurs plutôt, je me sens bien avec eux, ils ont été tellement bons, tellement drôles, tellement généreux, donc voilà. Le film, il est quand même aussi un peu à vous, parce qu'on l'a beaucoup tourné au Québec, Montréal, Sainte-Scolastique, enfin, dans plusieurs endroits, avec une équipe québécoise, et donc voilà, il y avait plein de techniciens que j'avais pas revus depuis le tournage, et qui, j'ai l'impression que c'est déjà un très très vieux film avec ce qui s'est passé, il est tourné depuis tellement longtemps, donc j'étais heureuse de voir notre chef décorateur, notre casting, par exemple, qui a trouvé tous ces acteurs et qui avait jamais vu le film. Enfin bon, donc j'étais heureuse de les retrouver parce qu'on s'aime beaucoup, voilà.
Est-ce que vous aviez anticipé les nombreuses réactions, commentaires au sujet du film? Est-ce que en le tournant, vous vous disiez « ceci va être un objet controversé »?
Non, pas du tout. J'ai essayé pendant tout le film, dans son écriture, son tournage, sa préparation bien sûr, son montage et sa post-production, de veiller au grain tout le temps pour faire un objet, comme vous dites, délicat, respectueux, plein d'amour, beau. Je voulais que tous les personnages soient beaux, même si on n'est pas tous des mannequins. Hein, c'est pas un film, ça met en scène des. Eh ben, je voulais que tout le monde soit à son avantage, à son mieux, soit beau, soit sincère, soit drôle. J'ai pas pensé à ça. Alors, une polémique, vous voulez parler de l'émission d'hier. Ben. Je l'ai pas regardée. Je dis simplement, on annonce dès le début que c'est une fiction, que plein de choses sont inventées et je m'en suis absolument jamais cachée. Plein de choses sont fausses. Mais comment vous dire, c'est comme dans le film, si la légende est plus belle que la vérité, eh ben imprimez la légende et c'est vrai. Il y a plein de trucs qui sont, mais comme dans une chanson. Si Jean-Jacques Goldman dit qu'il ira chercher ton âme dans les froids, dans les flammes, je ne sais pas qui peut aller chercher des âmes dans les froids et dans les flammes. Mais c'est compliqué. Mais... Donc moi, je voulais un film doux pour Céline et j'espère qu'elle le verra un jour et qu'il lui plaira, j'espère.
Mais Valérie, j'ai vu un article où vous êtes prononcée, vous avez dit « j'ai pas envie non plus de m'excuser d'avoir fait ce film-là ».
Ben non, c'est vrai. Pourquoi je m'excuserais? je veux dire, j'ai pas commis un crime, j'ai pas, moi je l'aime beaucoup ce film et j'ai l'impression que je suis pas la seule. Moi, je suis allée au Portugal avec, je veux dire en France, les gens sont venus nombreux, ils sortent aux États-Unis, ils sortent dans plein de pays. Enfin, je veux dire, ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose, c'est une fiction, donc plein de choses sont fausses. Et parfois, ça vient de deux vérités. Mais par exemple, Céline, peut-être qu'elle a eu, j'ai pas compté, une quinzaine de maisons. Et dans le film, il y en a que trois. Après, il y a des gens qui me disent pourquoi il n'y a pas Jean-Jacques Goldman, pourquoi il n'y a pas Luc Plamondon, pourquoi. Moi, ce que j'ai choisi, c'est l'histoire d'amour. Et alors, oui, c'est vrai. Alors, en même temps, j'ai pas envie de spoiler le truc, mais c'est vrai qu'on ne lui a pas donné une bague dans une glace. Voilà, mais moi, je trouve ça joli. Et René, j'ai l'impression qu'il était comme ça, très généreux avec la nourriture et avec, il adorait inviter les gens à dîner et que je le voyais bien, je l'imaginais bien, inviter toute l'équipe à Naples pour manger des glaces, voilà, et pour déclarer son amour et pour demander en mariage à Aline. Donc voilà, on a changé tous les prénoms, c'est aussi pour ça. Ce que je veux dire, c'est que tous les films, quand on voit un film sur Clo-Clo, il y a quand même une photo de Jérémy Régnier et au-dessus, c'est marqué Claude François. Or, ouais. Moi, je sais,
attendez,
moi,
Valérie.
Madame Lemercier, juste une seconde. Écoutez, les entrevues ne sont pas des citations à comparaître, là. et vous avez décidé de ne pas aller chez Julie Snyder après avoir annoncé votre présence. Pourquoi?
C'est-à-dire, c'est même pas une... C'est juste que c'était juste avant... C'était deux secondes avant l'avant-première. Pardon, il y a un camion, toujours le même. C'était une heure avant. Moi, ils ont eu envie, mon équipe aussi, et le distributeur, et que je passe une bonne soirée et que je me mette pas dans... Voilà, donc c'était à une heure du truc. L'idée, c'était de mettre une caméra dans la voiture, ce que moi, je ne fais jamais dans ma vie. Moi, par contre, je suis comme ça. J'ai jamais ouvert tellement les coulisses et tout ça. Donc moi, les caméras dans la voiture, je n'ai jamais fait ça. Il était question d'avoir une caméra embarquée dans la voiture.
Mais étiez-vous fâché après Julie Snyder?
Ben, c'est-à-dire qu'il y a un an et demi, j'ai eu un message très gentil, je sais plus de qui m'a dit « Julie a vu Aline et elle a adoré, elle a beaucoup pleuré, elle est très émue par le film ». Ça m'a fait très plaisir parce que c'est une fille que j'aime beaucoup et je trouve qu'elle a fait des interviews de Céline merveilleuses, que je la trouve drôle, impertinente. Voilà, c'est une fille que vraiment j'aime beaucoup, mais j'ai pas compris pourquoi... Enfin voilà, j'ai pas tellement compris pourquoi elle cherchait autre chose. Enfin voilà, pourquoi elle donnait pas finalement le fond de son cœur à elle, de spectatrice, et spectatrice très particulière, puisque tout le monde sait qu'elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup filmé Céline, travaillé avec elle pendant, enfin je veux dire, il y a une interview sur deux qui sont faites par Julie Snyder. Donc voilà, j'ai rien contre Julie et j'aurais aimé simplement qu'à un moment donné, elle dise que ça lui avait plu, que ce qu'elle a été émue, parce que c'est vrai. Donc voilà, c'est tout.
Ben merci de votre honnêteté, Valérie Lemercier. On vous souhaite un excellent voyage à Gatineau. Je sais que vous allez à Québec. Alors,
une des plus belles villes en Amérique du Nord.
Ouais, c'est le Milan du Canada.
Ah ben super. Non, mais je crois qu'on va être bien accueillis. J'ai eu Robert Charlebois qui m'a appelé dans la voiture et qui m'a dit que c'était son copain qui était directeur du cinéma. Donc, ouais. Voilà. Donc, ça va être...
bon voyage.
Merci beaucoup.
Merci, salut.
Attention au camion.
C'était Valérie, Valérie Lemercier. Aline, en personne, c'est un film dont tout le monde parle et mes camarades Catherine et MC ont beaucoup aimé.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Politiquement, la semaine est dominée par les CHSLD, plus précisément. Ce qui s'est passé dans les CHSLD en janvier, février, mars, avril 2020, avant et dans les premiers mois, les premières semaines de la pandémie. D'abord, il y a l'enquête de la coroner Jeanne Kamel. Et ensuite, il y a hier le dépôt du rapport sur le même sujet par la protectrice du citoyen Marie Rinfret. Mon prochain invité, vous l'avez entendu sur nos ondes pendant les premiers mois de la pandémie. Il s'agit de l'analyste et chroniqueur de politique publique, Patrick Derry. On ne l'a pas entendu depuis quelques temps pour une raison bien simple, en transparence totale avec vous. Patrick a eu la drôle d'idée d'aller en politique au cabinet de Dominique Anglade. Il n'a fait que passer. Il est revenu dans la vie civile. Et j'ai décidé de le réinviter de temps en temps. Salut Patrick.
Salut Patrick, merci de me le rappeler.
Bon, parfait. Maintenant, je veux qu'on se concentre. Le gouvernement dit, M. Legault a dit hier, écoutez, nous, au début de la pandémie, on savait pas qu'il y avait un risque là, pour les CHSLD. Je veux qu'on revienne dans les premiers mois de 2020, particulièrement, qu'est-ce qu'on savait, disons, avant la mi-avril 2020? Qu'est-ce que le gouvernement pouvait savoir, qu'est-ce qu'il aurait dû savoir et qu'est-ce qu'il ne pouvait pas savoir?
Oui, il y avait pas mal de choses. La première chose, moi, je vais revenir spécifiquement sur Mme McCann qui disait qu'elle savait que le danger était dans les CHSLD, qu'elle en était consciente, qu'elle a donné des directives en février, même en janvier. Et ça a été répété la même ligne par le Dr Arruda et par l'ancien sous-ministre Gendron, qui était sous-ministre à la Santé. Et ce qui est drôle avec les enquêtes publiques, c'est ça joue des tours à la mémoire. Hein. Tu sais, des fois, on en oublie, puis des fois, ben, on en ajoute. Et il n'y a aucune trace de ça, de directive ou d'une quelconque préoccupation dans des procès-verbaux, des réunions ou quoi que ce soit. Par contre, on peut avoir un indice de l'état d'esprit qu'animait le ministère parce que moi, je suis retombé sur un article qui était daté du 4 mars 2020. Donc, je replace le C. Après le premier cas au Québec, mais encore une semaine avant l'état d'urgence. Et à ce moment-là, et donc on est là un mois, deux mois après que Mme McCann disait que les CHSLD sont dans notre viseur, là, et là, Québec décide de couper une prime aux préposés aux bénéficiaires, puis pas n'importe quel préposé, on coupe une prime aux bénéficiaires qui travaillent en CHSLD. Donc c'était 180 $ par semaine pour les préposés qui étaient en CHSLD. À ce moment-là, il y a déjà des pénuries. C'est un enjeu. On verse des primes de 7 500 $ pour attirer des préposés dans la profession. On recrute à l'étranger, mais on est en négociation et la priorité, c'est pas la crise qui s'en vient, c'est de mettre de la pression sur les syndicats. Et même dans l'article de la presse, Mme McCann est citée en disant, bien là, il y a des négociations collectives, puis bon, on veut valoriser le travail des préposés, mais ça montre juste c'est quoi l'état d'esprit. Et là, arrive un peu après ça, la date du 10 avril. Et ça, c'est important parce que dans le rapport de la protectrice du citoyen, ça montre que c'est là que le ministère se réveille pour les CHSLD et dit « Hey, là, il faut vraiment qu'on s'en occupe, le personnel et ainsi de suite. » Et la ligne de défense du premier ministre, hier encore d'ailleurs, c'est toujours « On a agi avec les infos qu'on avait. » Et là, je reviens à ça. Qu'est-ce qu'on savait avant le 10 avril puis qu'est-ce qu'on devait savoir? Hein? Le 2 mars, premier cas de COVID en CHSLD au Québec. Donc, c'est plus qu'un mois avant le 10 avril. Le 8 mars, il y a une chronique d'André Picard, qui est chroniqueur au Globe and Mail, une autorité en santé, en journaliste de santé, ça fait, je sais pas, 30-35 ans qu'il fait ça. Et le titre du tout, « Senior care facilities are especially vulnerable to COVID-19 outbreaks ». Et je traduis, les centres de soins de longue durée sont particulièrement vulnérables aux éclosions de COVID-19. Et pourquoi il écrit ça, M. Picard? Parce qu'à ce moment-là, on voit ce qui se passe aux États-Unis, entre autres, et en Colombie-Britannique, on vient d'avoir un premier cas déclaré dans un CHSLD et Mme Anoui, qui est la docteure Arruda du Québec, pleure pendant le point de presse tellement elle sent ce que ça signifie et que donc l'heure est grave. Fait que là, je poursuis pour ce qui est arrivé au Québec ensuite. Bon, 27 mars, la Colombie-Britannique interdit les mouvements de personnel dans les centres de soins de longue durée. Ils ont des agences aussi en Colombie-Britannique, mais ils ont dit « organisez-vous ». Le 29 mars, il y a une conférence de presse où M. Legault dit « c'est sous contrôle ». Et Dr Arruda renchérit en disant que la propagation est plus faible que prévu. Écoute, ça a fait une lettre, une en lettre de bois du Journal de Montréal. On voit « c'est sous contrôle » en immensette. Moi, je l'ai conservé. Le 31 mars, on a des cas dans 410 endroits où vivent des personnes âgées, dont 184 CHSLD et une centaine de résidences. Et je rappelle, à ce moment-là, là, on est toujours sur le pilote automatique. Il n'y a rien qui a bougé. Il n'y a pas de directive, de mesure, rien du tout. Mmh. Et moi, à ce moment-là, j'ai retrouvé ce que j'avais écrit cette journée-là. J'ai dit, on l'a échappé. C'était évitable et prévisible. Des gens vont mourir.
Écoute, Patrick, j'ai lu le rapport de la protectrice du citoyen hier, OK? Et tout ce que tu dis est vrai. Et là, dans les notes que tu m'as envoyées, là, tu veux dire que le 2 avril aussi, il y a une chronique du Globe and Mail qui dit, écoutez, si vous pouvez sortir vos proches des maisons pour personnes âgées, puis ça, c'était d'un océan à l'autre, faites-le maintenant. Parfait.
C'est le titre.
Je le sais, mais écoute, il y a une partie de moi qui peut pas s'empêcher de penser aussi que c'était une donnée parmi plusieurs données sur le tableau de bord des urgences. T'sais. Maintenant, je trouve que c'est un peu facile à rebours, quand on regarde dans le rétroviseur, de dire ils auraient dû faire ça. Il n'y a pas beaucoup de monde qui a protégé en Occident les foyers de personnes âgées quand même. Là.
Moi, je te dirais deux choses là-dessus. Bon, la première, moi, je me fais toujours une règle de jamais dire après si je ne l'avais pas dit avant. Première chose, le Québec a eu l'avantage de voir venir dans le sens où les premiers cas sont arrivés en Europe avant le Canada, puis au Canada avant le Québec. Donc, l'Ontario et la Colombie-Britannique, par exemple, ont eu des cas un mois, presque jour pour jour, avant le Québec. On a vu aussi la situation aux États-Unis, c'est-à-dire qu'au début mars, il y avait des éclosions et des morts dans des foyers aux États-Unis. André Picard en parle dans sa chronique, je te dis ça de mémoire, c'est dans l'État de Washington ou en Oregon, là, mais il y avait des décès à ce moment-là. Fait que c'est sûr que c'est une situation exceptionnelle, c'est sûr que tu peux pas tout prévoir, mais il y avait immensément de signaux d'alarme. Tu sais, on se rappelle, par exemple, autour du 12-13 mars, Mylène Drouin est directrice de la santé publique de Montréal. Elle envoie un courriel qui a été publicisé par la suite, qui a été diffusé après ça par Radio-Canada en disant à Dr. Arruda, écoutez, faudrait mettre en congé les travailleurs de la santé de façon rétroactive pour inclure ceux qui sont allés en voyage pendant la semaine de relâche, parce que là, on a des gens qui sont avec des symptômes puis vont se promener dans tout le système de santé. Ça, c'est quelqu'un de la santé publique à ce moment-là. Donc, et qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Ben, on a dit oui, mais on ne l'a pas fait, et ça a certainement contribué au désastre. Fait que moi, je suis d'accord avec toi que tu sais, le Québec est loin d'être le seul endroit qui s'est fait prendre les culottes à terre, mais ça nous a peut-être, il était descendu avant, puis deux, ça nous a peut-être pris un peu plus de temps pour les remonter. Et même la réponse du politique après le 10 avril, et tu sais, t'en parles dans ta chronique ce matin, il y a beaucoup de contrôle de l'image à un moment donné, puis tu sais, il y a une partie qui est certainement pas la responsabilité du politique, mais le 15 avril, il y a un journaliste de la presse canadienne qui demande à François Legault, est-ce que la situation est actuellement hors de contrôle dans les CHSLD au Québec? Et là, M. Legault répond ceci, je l'ai répété souvent, dans la grande majorité des résidents, si vous voulez parler des CHSLD, d'ici ce contrôle. Et le 15 avril, on avait 500 morts. Deux mois plus tard, c'était 5000.
Patrick, tu as raison, mais j'ai lu le rapport de Mme Rinfret là-dessus. Puis ce qu'elle dit, c'est que le réseau est pas capable, ça on en parle depuis des années, de générer des bonnes données, OK? Sur toutes sortes d'affaires. Moi, ce que j'ai lu entre les lignes, c'est que quand le PM a dit ça, il faisait juste relayer ce que le réseau lui avait donné erronément comme données. Le réseau ne savait même pas que le feu était pogné dans les CHSLD à ce moment-là.
Absolument. Absolument.
Mais tu sais, c'est là que je te dis, je trouve que c'est un peu difficile de dire, regarde, ils auraient dû faire ça, 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 puis ça. Écoute, ils ont été pognés avec le réseau qui tu le sais comme moi, là. C'est un réseau qui est lourdeau puis qui n'est pas très agile, et c'est le cas depuis des décennies quand même, là.
Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pour ça que je pense que, présentement, il y a une tentation qui va être très, très forte de la part des trois partis d'opposition, en fait, presque quatre, finalement, les quatre partis d'opposition, de marquer des points politiques contre le gouvernement. Puis, bon, moi, je pense qu'il y a un certain nombre de décisions qui sont critiquables. Il y a des informations qui étaient publiques, c'est notamment, par exemple, sur le masque, les aérosols. On est encore, un an et demi plus tard, puis les aérosols sont pas reconnus. On s'occupe toujours pas des écoles. Mais l'erreur, c'est... On devrait mettre la partisanerie de côté, et le problème, c'est la machine. Et peu importe le gouvernement qui aurait été au-dessus de cette machine-là, moi, j'ai vraiment des gros doutes que ça aurait été mieux, que ça aurait été sur un gouvernement péquiste, libéral, solitaire ou même conservateur. Je suis pas sûr que c'est ça qui changerait. Et il faut aller dans la culture du ministère, le manque d'informations, une culture de l'opacité aussi, puis une machine qui a peut-être tendance à se protéger aussi.
Bien dit. Patrick, on va avoir l'occasion de se reparler. Merci d'avoir été là.
Plaisir. Bonne journée.
Il y a une mobilisation chez les syndicats pour les travailleuses en CPE. Il y a des votes qui ont lieu aujourd'hui à la CSQ et demain à la CSN. On parle de grève illimitée. On sait qu'il y avait des grèves tournantes. Ben là, on va voir les résultats demain. Tout ça complique évidemment la vie de beaucoup de parents et c'est pas évident pour les parents parce qu'il y a une sorte de, moi je dirais, les parents sont pognés dans leur quotidien, ça leur cause un cauchemar logistique. De l'autre, l'immense majorité des parents ont une sympathie, une compréhension du combat des éducatrices en garderie. Et il y a 300 mères qui signent ce matin une lettre ouverte dans la presse pour demander au gouvernement d'être de bonne foi avec le personnel des CPE. L'instigatrice de la lettre s'appelle Gabrielle Dumoulin, mère de 3 enfants de 3, 6 et 11 ans. Elle est au bout du fil. Madame Dumoulin, bonjour.
Bonjour.
Écoutez, juste avant qu'on aille sur le fond des choses, là, le contenu de la lettre que vous avez, dont vous avez lancé l'idée, je vous apprends là en direct les membres du syndicat CSQ qui représente des éducatrices en garderie, en CPE, pardon, ben, ont voté à 91,2% en faveur d'une grève générale illimitée. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Ouf!
Allô?
Vous me prenez un peu de court, en fait. C'est un peu difficile pour nous. Puis j'ai beau les supporter, là, ça, vous venez de me rentrer dedans. Là, ça va être difficile. Ça va être vraiment difficile.
Écoutez, Madame Dumoulin, je vais vous laisser reprendre vos émotions. Là, mais je vais résumer votre lettre. Là. La lettre dont vous êtes l'instigatrice, il y a 300 maires qui l'ont appuyée. Ça a été publié dans la presse. Ouais. Et ce que vous expliquez, c'est que vous êtes en faveur de ce réseau-là de CPE, vous trouvez que c'est une belle et bonne chose, mais tout ce qui a bouleversé la vie des familles à cause de la pandémie, les mesures sanitaires, s'ajoute au trouble de trouver des plans B quand le CPE est en grève. Est-ce que votre sympathie pour les éducatrices en CPE a des limites?
Je voudrais que, pour moi, non, dans le sens où je vais continuer à les supporter parce que je pense que c'est grâce à elles que ça me permet de travailler. Ça, justement, ce qu'on vit là actuellement, ça prouve, moi, ma performance est complètement réduite à pas grand-chose. Là. Donc, je me dis, c'est grâce à elles que je peux travailler, que je peux rapporter à l'État. Donc, pour moi, c'est un service essentiel, puis il faut que le gouvernement le considère. Il faut que le gouvernement leur donne leur juste part là-dedans. C'est pas juste une dépense, les CPE. J'avais déjà entendu quelque part qu'on disait, pour chaque dollar investi, c'est 2 $ qui revient au Québec. Donc, il me semble qu'elles ont droit d'avoir un salaire digne, elles ont droit d'avoir des conditions de travail, puis ça profite à tout le Québec. Donc, pour moi, je vais toujours garder cette ligne-là puis je vais toujours les supporter là-dedans. Après, c'est sûr que la COVID n'y est pas aidée à tout ce qu'on vit. Cette grève-là, c'est le coup de barre qui nous achève, là, les familles. Puis c'était ça que je voulais témoigner dans ma lettre. C'était de dire... j'en suis rendue à un point où j'ai envie de dire au gouvernement, donnez-leur ce qu'ils veulent qu'on en finisse. Là. Ça n'a juste pas de sens, là. Puis l'argent, ils l'ont. Donc, pour moi, ils l'ont. C'est juste une question de choix. Puis ils font le choix de se battre contre les éducatrices. Puis ça, ben, moi, ça me jette à terre. Actuellement, ça me jette à terre. J'en peux plus. Je suis plus capable de m'adapter.
Justement, dans votre lettre, là, vous dites, vous vous adressez au premier ministre François Legault et vous lui demandez de régler avec les éducatrices en CPE afin de sauver nos santé mentale et celle de nos enfants. Là, je vous sens à bout un peu. Expliquez aux gens qui nous écoutent pourquoi vous êtes à bout.
Ben déjà, faut savoir qu'on est passé, ben, en tout cas pour moi, mais pour plusieurs, je pense qu'on est passé en télétravail. Donc c'est largement documenté là. Donc les sphères entre le travail et la vie familiale sont complètement mélangées. Et là aujourd'hui, ben on travaille avec nos enfants, on travaille constamment, on est constamment interrompu. On fait ce qu'on peut dans nos deux sphères. Donc on n'a plus. On n'est ni performant au travail, ni performant dans notre vie familiale. Donc, ça nous manque constamment de l'adaptation. Il n'y a aucune planification possible. Puis les enfants, on le sait, ils en ont besoin d'une routine. Ils ont besoin, et nous aussi, on en a besoin. Donc, il n'y a plus de moment. Moi, j'en ai plus de moment pour moi. Le seul moment que j'ai pour moi, c'est à 22h30 où je suis épuisée, puis j'ai juste envie de dormir. Puis des fois, il faut que je rattrape mon travail. Donc, on a beau avoir des employeurs compréhensifs, ces espèces de ruptures de rupture d'équilibre, on n'a plus d'équilibre, on doit s'adapter constamment, puis on n'a plus l'horaire de travail. À 4h30, moi j'avais terminé, j'allais chercher mes enfants et là j'étais avec mes enfants. Là c'est plus comme ça. Ce matin à 10h, j'écoutais un documentaire animalier avec mon fils en espérant que ça l'intéresse tellement que je puisse aller prendre mes courriels. J'étais en réunion avec une amie, elle allaitait son bébé, une collègue, elle allaitait son bébé, je voyais des mains sortir de son chandail. Et puis moi, de l'autre côté, j'avais le bruit de fond de mes enfants qui jouaient. C'est pas les conditions de travail, ça, c'est pas un contexte de travail.
Je veux vous entendre, Madame Dumoulin, là, sur autre chose. Écoutez, les offres, quand même, sont généreuses pour les employés en CPE. On parle de Québec propose des augmentations qui vont de 20 % à 24 % Ce qui semble accrocher, si j'ai bien compris, là, c'est que ce ne sont pas des hausses équivalentes qui sont données aux autres employés, comme les gens de personnel de soutien, l'administration, les cuisines, l'entretien. Eux iraient chercher jusqu'à un maximum de 9,3 %. Là, on veut la même augmentation pour tout le monde, sinon ça ne marche pas. Cette stratégie-là, je comprends que vous appuyez les éducatrices, là, mais cette stratégie-là de leur syndicat, vous en pensez quoi?
C'est dur à dire parce que je suis pas en relation de travail, donc je peux pas analyser ça avec toutes les informations justes, et je pense pas que j'ai les compétences pour ça, mais pour moi, je pense que c'est juste. Elles ont droit aussi. Les autres travailleurs participent au réseau des CPE, ils participent à la qualité de service en CPE. Puis si on veut être concurrentiel au niveau des CPE avec les autres milieux, je pense aux cuisiniers, nous, au CPE, je pense que c'est le troisième qui passe en 2 ans. Donc, si on veut être concurrentiel, puis en pénurie de main-d'œuvre comme actuellement, ben il faut leur donner des conditions de travail. Puis ces employés-là contribue à la qualité des services. C'est pas juste l'éducatrice qui est la qualité des services. Donc, moi, à l'heure actuelle, j'ai tendance à aller... j'ai envie de dire go, on continue. Mais je vous avoue que c'est un peu difficile pour moi de me prononcer dans le sens où, pour l'instant, je les appuie encore. Est-ce que les 400, on est rendu à 400 signataires là, de la lettre, ont la même opinion que moi? Je ne sais pas. Mais voilà.
Ben merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Je rappelle que votre lettre est dans la presse. Puis écoutez, on espère que la pandémie va tomber sous contrôle et que le conflit de travail dans les CPE va se régler très vite. Merci, Madame Dumoulin.
Merci à vous.
Salut, c'était Gabrielle Dumoulin, mère de 3 enfants, de 3, 6 et 11 ans. Écoute, là, il y a une couple de commentaires là, qui rentrent dans la messagerie. Je veux juste préciser une affaire. Le réseau des CPE, les gens disent, c'est nos taxes et impôts qui payent pour ça. Très, très vrai. Écoutez, c'est vrai, puis le gouvernement, c'est pas un puits sans fond. Le gouvernement, sa job, c'est de négocier le meilleur deal possible en respectant la capacité de payer des gens. C'est vrai. Dans le cas des CPE, une affaire qu'il faut pas oublier, c'est que, et c'est vrai pour le réseau de garderies, au Québec, ça a été démontré, c'est une dépense, mais c'est une dépense qui rapporte. C'est-à-dire que ça a permis à beaucoup, beaucoup de mères depuis 20 ans d'investir le milieu du travail. Donc, au-delà de l'émancipation personnelle, ces femmes-là contribuent. Donc, c'est vrai que c'est une dépense, mais c'est une dépense qui est payante. Je me permets cette précision-là.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Claudia Desjardins est aussi une autrice, de même que son amie Claudia Larochelle. Les deux sont là, on va parler du Salon du livre. Salut les filles!
Allô?
Claudia, je vais commencer avec toi. Écoute, c'est un salon du livre en présentiel. Ça fait du bien, j'imagine.
Ça fait tellement du bien. On a hâte de se revoir,
de se revoir entre nous, entre écrivaine et écrivain, mais on a hâte aussi de voir notre lectorat. On s'ennuie, c'est un métier qu'on fait en solitaire, dans nos bureaux fermés, et plus que jamais ces deux dernières années. Donc là, vraiment, on a hâte de les retrouver dans cette 44e édition du Salon du Livre, qui se passe au Palais des Congrès, je tiens à le dire. Et il y a un thème intéressant qui est de se retrouver, justement. C'est aussi ça le thème de cette édition-là.
Il va y avoir des séances de dédicaces. Tu vas être là toi-même en signature. Écoute, oui. Est-ce que c'est le fun d'être là, d'être assise puis d'attendre que les gens viennent nous voir?
Ça dépend à côté de qui on est assis. Parce que quand on est assis à côté de mon ami Lydia Desjardins, on peut avoir des complexes d'infériorité, mais... Sinon, ça se passe super bien. Non, mais je blague.
Elle exagère tellement.
Ben là, attends, je m'excuse, là, mais India, quand même, il y a de longues lignes pour faire ça.
Parce ça tombe sans connaissance.
Ben
il y a
oui.
Des jeunes qui tombent comme devant les Beatles.
Sérieux? Là,
ben oui, c'est arrivé. Elle le dira pas, elle est trop humble. Mais oui. Mais pour vrai, c'est vraiment...
Faites perdre connaissance aux enfants. Moi aussi, je serais humble. Ça se raconte pas.
pour vrai, c'est vraiment stimulant de rencontrer les gens. Mais surtout là, ça fait longtemps. Moi, j'attends mes grands lecteurs adultes avec pas de cadeaux, mais mes petits lecteurs enfants, je les attends avec des petits cadeaux. Je m'ennuie d'eux pour vrai. Ça va être vraiment un beau moment.
Donc, tu vas être en signature samedi. À quelle heure?
Samedi. De 10 à 11h30. Et c'est le salon, il est un peu reconfiguré là, en raison des mesures sanitaires et tout ça. Donc, il y a des stands qui s'appellent des stands de signature qui ont été configurés donc pour pouvoir accueillir les gens d'une manière plus propre, plus adaptée aux conditions sanitaires.
Ben, je me tourne vers la Paul McCartney des autrices québécoises. India Desjardins, salut!
Exagéré tellement, mais allô.
Mais écoute, India, ça fait des années que je te vois aller et je sais qu'il y a vraiment un lien là, très, très fort entre toi et tes lectrices et lecteurs. Est-ce que tu confirmes ce que Claudia vient de dire, des grandes files, quand tu te présentes au Salon du Livre?
Mais on peut jamais rien tenir pour acquis. T'sais, moi, à chaque salon, je me dis, bon, ben, tu sais. Ça va être la dernière fois. Puis tu sais, je suis tout le temps contente quand je revois les gens d'une année à l'autre. Puis je suis tout le temps surprise aussi, tu sais. Mais tu sais, il y a des gens qui reviennent me voir d'année en année. Cette année-là, il y a un couple qui m'a écrit. C'était des jeunes qui se sont rencontrés au secondaire, qui ont commencé à former un couple au secondaire. Puis là, ils vont venir me présenter leur bébé. Tu sais, je les vois grandir. Oh! Tu sais, c'est extraordinaire ce lien-là qu'on peut créer avec les gens qui nous lisent. Puis cette année, pour la première fois, c'est au Palais des Congrès. Fait que là, moi, je suis bien stressée parce que j'ai mes habitudes. Oui. Fait que là, c'est comme ça va être nouveau là, cette année. Il va y avoir beaucoup de... On va retrouver le public, mais on va retrouver aussi un nouveau lieu. Donc, ça va être... Oui, c'est ça. En plus, moi, je me suis acheté des jumpsuits, là, fait que ça va être toute une organisation.
India, parle-nous de ton dernier album jeunesse qui s'intitule « Les baleines et nous » aux éditions de La Baleine, de la Bagnole, pardon. Oui. Ça parle de quoi?
Ben, en fait, j'ai voulu faire un livre documentaire sur les baleines. Parce que je suis vraiment une passionnée de ça, puis je me rendais compte qu'il y avait plein de choses que je connaissais pas sur les baleines. Donc, je suis allée poser mes questions aux scientifiques du GREM, qui est le groupe de recherche des mammifères marins. Je nomme tout le temps le GREM, puis ma mère, un moment donné, m'a dit « Quand tu parles du GREM, dis c'est quoi? Personne sait c'est quoi. » Fait que, bon, c'est le groupe de recherche des mammifères marins. Puis c'est ça, donc j'ai pris des légendes ou des anecdotes que des fois, on se raconte entre nous comme un peu des histoires de pêcheurs. Puis je suis allée vérifier certaines informations puis en profiter aussi pour partir de ces légendes-là pour parler de ce qu'on connaît peu sur les baleines.
Et pourquoi les baleines?
Bien, moi, je trouve que c'est vraiment un animal fascinant. Moi, ça me fascine. Comment je pourrais dire? Il y a quelque chose sur les baleines... À un moment donné, là, quand j'étais petite, j'allais les voir, puis il y en avait plein, ça sautait partout. Puis à un moment donné, je suis allée, puis j'étais là, voyons, on dirait qu'il y en a moins, pourquoi? pourquoi il y en a moins, je comprends pas. C'est-tu mon imaginaire d'enfant qui en avait imaginé plus? Ça, c'est une des questions que je suis allée vérifier avec le GREM. Est-ce que j'ai imaginé ça, qu'il y en avait plus avant? Mais non, il y en a vraiment moins. Comme par exemple, je donne un exemple, les baleines bleues, il y en avait 200 000 dans les années 80, puis maintenant, il en reste 5 000. Et ça, c'est la partie visible de ce qu'on voit pas qui se passe en dessous dans les écosystèmes marins qui a rapport avec les changements climatiques. Donc, les changements climatiques, ça a beaucoup de conséquences, puis on en parle beaucoup ces temps-ci, mais pour moi, les baleines, c'est comme la partie visible de tout ce qu'on voit pas. Donc, si elles sont en train de disparaître, ben qu'est-ce qui, sur la planète, est en train de disparaître et de changer aussi? Donc, c'est pour ça que j'ai voulu prendre cet animal-là particulièrement.
OK. Claudia Larochelle, demain, 20h, demain, jeudi, tu fais une rencontre là, dans le cadre de quoi? Oui. C'est Confidences d'écrivains, c'est ça?
J'aime ça, les Confidences d'écrivains. J'adore en animer aussi, donc rencontrer les écrivains. Pour une trentaine de minutes, donc les visiteurs, les visiteuses peuvent aller à la rencontre de ces personnalités-là. Puis c'est souvent des gros noms là qui se détachent, des noms qui ont été importants dans les derniers mois dans la littérature québécoise. Moi, je rencontre demain de 20h à 20h30 à l'espace Savoir Média Alain Farah. Alain Farah qui vraiment qui est en nomination en ce moment, notamment pour en liste pour le prix des libraires puis le prix des collégiens avec 1000 secrets, 1000 dangers, un roman extraordinaire qui est paru au Cartani il y a quelques semaines. Je sais qu'il y a Martin Michaud qui sera en rencontre, Anaïs Barbeau-Lavalette, Audrey Wilhelmy, Natacha Canapé-Fontaine, Marie Laberge, Marie-Cécile Labrèche. C'est vraiment des gros noms. C'est vraiment des beaux moments parce que on a des rencontres privilégiées avec les écrivaines et les écrivains. Ils se portent bien au jeu, ils s'ouvrent, ils se confient. Puis on n'entend pas assez souvent nos écrivaines et écrivains du Québec. On les voit pas assez dans les émissions, ils sont pas assez invités selon moi. Donc c'est vraiment des moments uniques pour philosopher, discuter, puis entrevoir le futur avec eux.
Claudia pose tellement des belles questions. Là. Allez voir ces rencontres dans chaque salon du livre. Là. C'est vraiment des beaux moments.
Est-ce que les gens s'évanouissent pendant ces rencontres?
Retour d'ascenseur, hein? C'est beau.
Ben, tout le temps. Les gens s'évanouissent tout le temps. Tu sais, t'as Monica Bellucci devant toi.
Je ne vais pas poser une question à India parce qu'elle est une star, comme on vient de dire. Je vais poser la question à Claudia. Moi, j'ai un certain malaise quand je vais au Salon du Livre. Peut-être qu'il y a juste moi, mais tu sais, il y a des longues files devant Ricardo, des longues files devant Marie-Lou, des longues files. Et il y a plusieurs auteurs qui sont seuls, tu sais, avec leurs livres. Et moi, me sentant coupable, je vais les voir. Est-ce que tu vis ce malaise-là, toi aussi? Il y a comme une injustice. Il y a comme des gens. Je parle pas d'India, je parle d'autres personnes qui sont pas nécessairement d'ailleurs des auteurs, mais des vedettes, où il y a plein de monde.
Je vais le dire.
Mais est-ce que
je peux quand même répondre, même si.
Ben okay, oui.
Moi, avant mon premier salon du livre, là, j'étais allée voir ma psy. J'étais comme, oh mon Dieu, comment je vais vivre ça? J'avais fait une séance de psy exprès pour ça. Puis finalement, elle m'avait dit, regarde, souris, dis allô aux gens. Tu sais, c'est vrai que j'ai des fils maintenant, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Puis les auteurs sont contents. On dit allô aux gens, on parle. Voyons, il faut arrêter de penser là, qu'on fait pitié parce qu'il n'y a personne. Tu sais, en fin de semaine, ça se peut qu'il n'y ait personne à mon kiosque. Puis ça se peut qu'il y ait des moments qu'il n'y ait personne. Puis on sourit, on dit allô, on dit bonjour aux gens. Tu sais, on n'est pas non plus, on ne fait pas pitié.
Claudia, qu'est-ce que tu as dit?
Oui. J'ai dit, on s'envoie des textos entre nous. Quand on
mais
s'ennuie
Claudia... À part India Desjardins, là, l'auteur ou l'autrice moyen là, veut pas être à côté de quelle table? Parce que tu sais que tu n'auras pas de... En fait, probablement qu'on va juste te demander de s'accoter sur ta table là, pendant qu'on fait la file.
À côté de quelle table je ne veux pas être?
Oui.
C'est chiant ben... comme question. Réponds pas, Claudia.
Je ne peux pas répondre, mais je vais vous donner je nommerai pas le nom, mais une année, puis c'était à Québec. Mais il faut dire que je fais pas pitié. Il y a des gens qui viennent me voir quand même. Là.
Ben mais oui, il y a plein de monde au kiosque de Claudia. Ben oui, arrêtez de penser qu'elle fait pitié. Et tous les auteurs jeunesse les plus lus avec la doudou.
C'est pas mais, ça qu'on dit.
Moi, c'était au Salon de Québec. J'étais tranquille dans mon coin, puis j'étais à côté d'un humoriste fort connu. Puis il y avait plein de monde qui allait le voir. Puis qui me demandait toujours, ben ça, puis c'est vrai, là, c'est pas un cliché, là, mais sont où les toilettes? Est-ce que vous êtes son agente? Est-ce que vous êtes sa porte-parole? Puis non, puis je suis pas sa blonde, non. Je gère pas. Donc oui, ça arrive. C'est arrivé des choses comme ça. Mais ça fait longtemps maintenant, j'ai gagné. Tu sais, je suis plus
plus souveraine.
OK,
mais t'as quand même, Claudia, je dois dire, là, India l'a évoqué, mais avec la doudou, t'as quand même, tu dois avoir un mini public qui veut absolument venir te voir avec le petit toutou qui est à côté de toi, là, non?
Elle a vendu 50 000 copies de la doudou, là. C'est pas, pas n'importe qui, Claudia, là.
Vous devriez vous engager mutuellement comme gérante.
Ouais.
On a besoin de sororité. On s'aime, on a besoin de sororité, puis c'est vrai qu'on s'encourage beaucoup parce que c'est des moments qui sont joyeux, qui sont heureux, mais on a aussi besoin de retrouver nos pères dans ces moments-là. Puis effectivement, il y a des moments un peu plus malaisants durant les salons de livres, mais c'est pas si pire, ça va bien. Moi, j'ai des belles filles, j'ai des beaux jeunes, puis il y a des parents aussi qui viennent me voir. J'ai un public vaste parce que j'ai autant des lecteurs adultes que des lecteurs tout petit. Et je suis heureuse cette année particulièrement, comme ça fait deux ans à peu près qu'on s'est pas vu, ben je retrouve des petits qui sont nés puis qui découvrent ma littérature, mes textes, mes mots avec la doudou. Puis ça me fait vraiment plaisir de voir des bébés débarquer, des jeunes qui n'existaient pas il y a deux ans finalement. Ça sera des beaux moments.
Claudia, tu es autrice et je veux pas te laisser partir sans que tu nous parles de tes coups de cœur parce que tu es aussi chroniqueuse littéraire. Qu'est-ce qui te fait triper ces jours-ci?
Là, il se passe de quoi, là? J'en parlais avec India justement hier. J'ai fait la découverte d'une écrivaine qui s'appelle André Maillet. Elle vient d'être rééditée dans la collection Bibliothèque québécoise. Puis c'est une écrivaine québécoise qui est née en 1921 et qui est décédée en 1995. Et ce texte-là, il y a plusieurs textes d'elle, mais on a réédité un recueil de ses nouvelles qui s'intitule Le lendemain n'est pas sans amour. Et je ne connaissais pas, mea culpa, je ne connaissais pas cette écrivaine québécoise-là qui était journaliste, qui était correspondante. Elle a été candidate du RIM dans Westmount quand même. Auteur de 9 livres, une pionnière de la modernité littéraire québécoise, et elle parle déjà là, dans les années 30, 40, dans les années 50, 60, disons, des rapports de classe, des mécanismes de sentiments amoureux, du changement de mentalité des femmes, de notre rapport à la condition familiale, du patriarcat, et elle est tellement moderne déjà à ce moment-là. Moi, de la retrouver, de la découvrir actuellement avec cette réédition-là. Elle s'appelle André Maillet. Ben, c'est vraiment très réjouissant. Puis c'est vraiment stimulant aussi de faire des découvertes comme ça de personnalités qu'on a oubliées, malheureusement.
Très intéressant. Merci, Claudia. Merci, India. India, on te garde.
Oui.
Et je rappelle aux auditeurs qu'on peut vous voir toutes les deux au Salon du Livre en fin de semaine. Merci à vous deux.
Patrick Lagacé, en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.